Les Nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Rien de plus injuste que le succès et rien de plus injuste parfois que l'insuccès. Dans quel domaine ? Celui de la chanson, qui intéressait plus particulièrement François-Régis Barbry dans l'émission qui vient. Mais il sera aussi question de théâtre, de cinéma, dans cet opus consacré à Serge Reggiani. Première diffusion sur France Culture, le 22 septembre 1990.
C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici, j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais, 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge.
Gros plan sur un artiste qui nous enthousiasme depuis bientôt un demi-siècle, Serge Reggiani. Lumière sur un saltimbanque, pur sang, comédiante et tragédiante, qui a su avec sincérité et intégrité habiter les rôles les plus délicats sur la scène comme à l'écran, du redoutable Franz Gerlach des Séquestrés d'Altona, au Don Tumeo du Guépard de Visconti, en passant par Jean-Pierre Melville, Albert Camus, Racine, Alexandre Dumas, Jean Cocteau et Jacques Prévert. Place à l'interprète de Vian, Apollinaire, Vidali, Moustaki, Victor Hugo et Gainsbourg, auquel il a donné son lamento à lui dans un opéra où l'emphase s'efface devant l'émotion, la colère et la douleur. Retrouvailles avec un artiste dont la présence dans Casque d'or et la voix dans Le Déserteur définissent un talent désormais inséparable de l'histoire de notre siècle.
Elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi, ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'Italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance. C'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien. Et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù.
J'ai été d'abord un enfant étranger. D'abord, j'étais un enfant italien, et dans une vie relativement paisible, malgré les ennuis de mes parents, le fascisme. C'était avant 1930. Je suis né en 22, c'est-à-dire à l'époque où le fascisme est né, où le fascisme se fait de plus en plus violent, ce qui fait qu'un beau jour, mes parents ont dû non pas fuir, mais partir d'Italie. Et j'ai suivi... mon père est parti d'abord, parce qu'il était plus impliqué que nous, bien sûr, dans tout ça. Et ensuite, je suis venu en France avec ma mère en 1930. une enfance relativement calme. Et puis, tout d'un coup, j'ai découvert un autre monde, quoi. Je ne parlais qu'italien, et un beau jour, à la frontière, à Domodos, les douaniers disaient passaporti, à 4 heures du matin, dans la brume. C'était un 1er novembre en plus, il pleuvait. Et puis, tout d'un coup, le train a fait quelques mètres dans la fumée, le bruit de la nuit, enfin, cette espèce de silence mortel, et en même temps avec seulement le bruit du train, quoi. Et j'ai entendu tout d'un coup passeport, et j'ai compris que vraiment, j'entrais dans un monde tout à fait différent. C'est là où j'ai compris qu'il y avait des nations, qu'il y avait des langues, qu'il y avait des nationalités. Ça a été pour moi un coup très fort. Voilà, alors l'enfance a été finalement une enfance un peu bousculée au départ pendant quelques mois, puisque mes parents devaient changer d'hôtel souvent, parce que mon père n'avait pas de travail, parce que, enfin, mille choses. Mais c'était les débuts seulement. Je n'ai pas eu une enfance du tout malheureuse, bien que, comme on dit, une enfance de gens simples. Je n'avais pas tellement le sens des études, bien sûr j'avais tort, et mes parents aussi. Et j'ai quitté les études très vite, au certificat d'études très exactement, et j'ai commencé à me débrouiller dans la vie, mais sans en souffrir aucunement. Je n'ai pas eu d'enfance malheureuse, je n'ai jamais crevé de faim, et même ni dans mon adolescence, ni même dès l'âge d'homme, comme on dit, je n'ai jamais souffert de misère véritable. Enfin, tout a été toujours très bien. Et mes souvenirs d'enfance, disons mes souvenirs de 10e arrondissement et de Faubourg Saint-Denis, sont des souvenirs merveilleux. C'était la boxe, c'était le Central Sporting Club, c'était les Montmartre, c'était l'entraînement en vélo autour de Longchamp, c'était les courses en vélo, c'était les combats, c'était une jeunesse de môme populaire, quoi, qui aimait le sport, qui aimait rigoler, qui aimait les filles, qui...
Nous étions quelques complices, Alfredo et le Germain, que ses copains par malice avaient surnommé le cousin. Il y avait l'anglais de Boulogne, un adepte du tunnel, mon frère cadet de Gascogne, et puis moi l'intellectuel. On avait fait à Venise un petit casse-pacassin. On a filé jusqu'à Pise et on a discuté argent. Mais sur la tour, quelle misère! Alfredo s'est un peu penché. Quand on est dur en affaire, on finit toujours par tomber. È pericolo, sì. È pericoloso sporgersi. Dans un coucou de banguère, on partageait le billet. Mais le Germain en colère insinuait qu'on le volait. Il nous a dit dans sa langue un truc du genre, faut pas pousser. Ça même quand on en manque, ça vous donne des idées. È pericoloso, sì. Sporgersi. L'anglais et mon pauvre frère sont tombés, quelle maladresse, du haut des tours de Nanterre sur un quart de CRS. Dans ma villa de Marseille, moi je cherche aux dérisions, en dormant sur mon oseille, une chute à ma chanson. È pericolo, sporgersi. È pericolo, sporgersi.
J'ai débuté grâce à la maladie d'un comédien qui est disparu depuis, qui est mort depuis, et qui jouait un rôle très joli, mais très court, d'une pièce de Vitrac qui s'appelait Loup-garou. Et comme j'avais été dans le temps, c'est-à-dire un peu avant la guerre, élève du metteur en scène, à savoir Raymond Rouleau, lorsque ce comédien est tombé malade, Raymond Rouleau m'a demandé d'essayer ce rôle que j'ai essayé. Il m'a admis et voilà, j'ai joué pour la première fois de ma vie. À cette époque, je dansais moderne. À cette époque, je faisais de l'acrobatie pour moi, mais parce que je répète, je pensais que le métier était fait de ça.
Et puis, j'avais même pris des cours de chant que j'ai bien oublié depuis. La preuve en est d'ailleurs, la manière dont je chante. J'avais 16 ans, et à 16 ans, avec un copain qui s'appelait Stekatz, qui existe toujours et qui est toujours tapissier, il était tapissier, il est resté. Moi, j'étais coiffeur. Et néanmoins, pour comme nous travaillons chacun dans notre famille, c'est-à-dire moi chez mon père coiffeur et lui chez son père tapissier, forcément on n'était pas payé. Moi j'avais quelques pourboires ici et là, et lui, son père, à la fin de la semaine, si ça avait bien marché, lui filait un peu de fric ou pas. Et alors avec lui, on a monté des sketchs incroyables. Il jouait du violon, c'est un juif polonais, il jouait du violon. Et il imitait Michel Simon aussi très très bien. Il lui ressemblait d'ailleurs. Il imitait très bien vocalement. Il jouait du violon. Et moi, j'imitais des comédiens et des chanteurs. Mais j'avais 16 ans. Et alors, il y avait à l'époque des endroits dans Paris où il y a écrit noces et banquets. Alors on y allait, puis on disait, voilà, quand vous avez une noce, vous nous faites signe. Et puis nous, on travaille pour rien, on travaillera pour boire. Et alors, on a fait quelques noces et banquets. Pendant très longtemps, pendant un an et demi environ. Ça se passait dans des bistrots, dans les premiers étages, des bistrots billards et autres, essentiellement à Paris. Et puis aussi, dans certaines mairies. Je me souviens par exemple qu'un jour, nous avions fait notre numéro dans une mairie où il y avait eu un grand mariage. Je ne sais plus qui se mariait pour que la fête du mariage continue dans la mairie. La beuverie... Et nous avions fait notre numéro avec un beat sensationnel, bien entendu. Personne ne nous écoutait, tant pis. Et puis, on se déshabillait en coulisses, les soi-disant coulisses qui étaient les water de l'endroit, et j'ai entendu quelqu'un chanter. Une voix merveilleuse, douce et adorable, qui chantait une chanson de Trenet, qui était « Boum, lorsque mon cœur fait boum ». Et on est remontés tous les deux comme des fous. On était très jeunes, on avait 16 ans, 17 ans peut-être. Et cette môme, elle était là comme ça. Et c'est une des rares fauches que j'ai faites dans ma vie. Mais j'ai fauché une bouteille de champagne pour, à l'organisation pour pouvoir dire à cette fille quand elle sortira de scène, on va trinquer. C'était une manière très enfantine de faire la cour, mais je répète que j'avais 16 ans. Et elle m'avait vraiment ébloui. Et ce qu'elle faisait était formidable. Elle chantait jazz alors qu'elle était française comme personne. Enfin, c'était merveilleux. Elle s'appelait Micheline Michel. Je l'ai rencontrée ensuite dans un cours qui était le cours Rouleau dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et c'est devenu depuis Micheline Prel.
Je suis le roi du ciseau, de la barbiche en biseau. Je suis le barbier de Belleville. Des petits poils jusqu'aux cheveux, je fais vraiment ce que je veux. J'ai toujours été hanté par le désir de chanter Manon Carmen ou Corneville. Alors avouez que c'est ralent d'avoir la vocation sans le talent. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois. Mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. Les clients me comparent au fameux Raser Figaro, je ne suis que le barbier de Belleville. Je peux vous passer un shampoing, mais vous faire un tour de shampoing. Je prends les paris, le meilleur de tout Paris, pour tous les goûts, dans tous les styles. Je fais un métier que j'adore, mais je voudrais chanter Toréador. Je n'ai pas de voix, j'essaye quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour l'opéra. C'est comme ça je ne suis ni Caruso ni Rossini. Je suis le barbier de Belleville. Je ne serai jamais, hélas, le partenaire de la colosse. Alors de mon bistouri, je taille les favoris des bonnes gens de la grande ville. En rêvant que je suis à la Salle Garnier ou bien à la Scala. Je n'ai pas de voix, j'essaie quelquefois, mais ça ne vient pas, je ne suis pas doué pour la terre.
Je suis, contrairement à ce que beaucoup de gens ont affirmé, je suis un chanceux. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé tout le temps, bon an, mal an, et de plus, à des choses qui m'intéressaient. Tu vois, je n'ai jamais souffert matériellement. Je me contentais de ce qui arrivait, mais je n'ai jamais eu faim. C'est facile de dire qu'on a eu faim, même quand on a eu faim, mais j'ai jamais eu faim. J'ai toujours vécu convenablement, matériellement en tout cas, convenablement.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Joliette.
Bonjour, Pépé.
Salut. Tu as bien couru, mon petit?
Ouais, j'ai bien couru. J'ai eu chaud.
Ouais.
Ce qui m'étonne, c'est que tu sois tout mouillé devant et tout sec derrière.
Je suis tout sec derrière?
Oui, tu es tout sec derrière.
C'est curieux?
Très curieux. Mais comme aujourd'hui c'est un jour exceptionnel, on ne va pas en parler. Tiens, c'est pour tes 20 ans.
Bonjour.
Antoine Turini.
Tu m'en avais jamais parlé.
Ah, c'était pas le moment. Maintenant, si. C'est pour bientôt.
Pépé, pourquoi est-ce que je peux jamais parler de mon père? Pourquoi tu m'as envoyé à Paris quand j'étais petit? Pourquoi tu m'as fait revenir brusquement? Pourquoi je dois m'entraîner en cachette comme un voleur?
Pourquoi? Parce que c'est comme ça, voilà.
Pourquoi je peux pas porter mon vrai nom?
Pour l'instant, tu as le nom de ta pauvre mère, Bodin, comme ton cousin. Pour l'instant, ça te suffit bien, va? Le jour où tu reprendras le nom de ton père, sera tout neuf, sera pas usé.
Pépé, j'ai toujours fait ce que tu voulais. J'ai jamais rien dit. Mais maintenant, j'ai 20 ans. Tous ces mystères, j'ai le droit de savoir.
Le droit, quel droit? Non, non, tu as le droit de rien du tout. Le droit, tu vas le gagner. Avec ça, bientôt. Tout est prévu, mon petit tout. Et tout se passera comme j'ai prévu.
Quelques piliers du floor décollèrent leur tête du bar ou de la terrasse comme dans un remake de Robert Robertson, plus connu sous le prénom de Sergio Leone, bien sûr. Il était bien au floor, sur une terrasse certes, mais celle du floor. C'est là qu'il avait croisé Jacques Becker la toute première fois. Simone Signoret et lui étaient des membres notoires du groupe Octobre, sous l'autorité paternelle de l'homme à la face de lune. Becker, petit de grand talent et de grande discrétion, élégant comme Pierrot, plein d'allure. Il avait pressenti Serge pour être mandat, en face de Simone Signoret dans Casque d'or. Il venait à la salle Saint-Cloud parler du rôle de Sergio avec Sergio et regardait pousser sa moustache, car il voulait pour mandat une moustache de charpentier canon siècle dernier. En attendant, Jacques lui-même s'interrogeait sur le « comment ça ira à Serge ?» Dessiner sur les photos les poils qu'il espérait du temps de la pré-production, il fallut aussi convaincre les producteurs qui ne croyaient pas au box-office de Reggiani. La bonne vieille maison de là-bas s'illuminait à chaque venue des frères Jacques. Ce fut le seul film où Sergio ne sentit pas le temps passer.
C'est une des rares dates dont je me souvienne, 51, justement parce que c'est Casque d'or et que Casque d'or est le plus beau film auquel j'ai participé. Une joie professionnelle, la joie professionnelle la plus dense, la plus profonde à laquelle j'ai participé.
Tu voulais venir, alors j'ai pris un fiacre. Georges, on est encore à table, tu sais. Qui c'est celle-là? C'est moi qui devrais vous demander ça, madame. Il vous a peut-être pas dit qu'il était fiancé? Ah, excuse-moi, je pouvais pas deviner. Salut, hein.
Marie.
À ta santé, mon brave. Putain! Quoi?
Allez, Marie, vaut mieux que tu t'en ailles.
Je te demande pardon, mais je l'ai reçu hier, comme ça on est quitte.
De mon quartier, on peut voir depuis avant-hier une histoire en blanc et noir. Le film était de Jacques Becker avec la fille la plus belle. Dans un café français, un menuisier dansait, mais rangeait les violoncelles. Elle était l'idée fixe d'un dénommé Félix, dont les gilets fleuris faisaient peur dans Paris. Le menuisier dansait et la fille aimait, et c'était pour la vie. Elle s'appelait Marie-Mais à l'heure où Paris dort, un voyou qui trépasse dans le fond d'une impasse, fait accuser de sa mort. L'ouvrier qui enlace la fille au casque d'or, tous les chats étaient gris et les lumières éteintes. Mais Félix a tout dit en buvant son absinthe. Alors Marie, en larmes, vois venir les gendarmes. Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier comment meurt en blanc et noir un homme qui a jamais vu la mer.
quand tombe la guillotine. Sur le coup de mandat, il s'appelait mandat. C'est l'amour qu'on assassine. Et la valse repasse et le film se termine. Un menuisier dansait et la fille l'aimait. Et cette valse-là, une femme dans mes bras, la dansait comme personne. Et c'était toi, Simone.
J'allais à tous les cours en même temps parce que je voulais savoir toutes les théories possibles et essayer d'en tirer une leçon. Il se trouve que Raymond Rouleau a été le gagnant de cette aventure, parce que c'est de lui que je tiens l'essentiel, avec ensuite au conservatoire un homme merveilleux qui a 92 ans aujourd'hui, qui était André Bruno, qui avait une grande classe, une vraie classe au conservatoire, ce qui ne saurait être le cas aujourd'hui, je le signale en passant. Voilà, avec Bruno, j'ai appris beaucoup de choses, avec Rollo, j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire à essayer de penser aussi sincèrement possible ce qu'on raconte, et surtout à se passer du métier, parce que le métier, avoir du métier dans notre profession, n'existe pas. Mais si on a un jour du métier, on est foutu. En tout cas, vis-à-vis de soi-même, comme je le pense. Oh, on peut être une grande vedette, oui, mais on ne sert plus à rien, ni à soi, et encore moins aux autres. C'est un métier d'amuseur que le nôtre. Alors, c'est vrai que j'ai fait des claquettes quand j'avais 17 ans, j'ai fait de la danse acrobatique, j'ai fait de la danse tout court, classique, danse moderne. J'ai même essayé à un moment donné une chorégraphie moderne avant que l'on fasse en France des chorégraphies modernes. C'était avec Roland Petit et je me suis fait virer par les classiques et les barbus de l'époque, les mêmes qui ont refusé Béjart et qui ont fait que Béjart est devenu un Béjart belge alors que Béjart est français, n'est-ce pas? Car c'est quand même la Belgique qui a abrité Béjart et qui fait que Béjart est ce qu'il est aujourd'hui en France. Mais avec ces barbus-là seulement, Béjart n'aurait jamais vu le jour.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû dire cela. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi. Et Céleste m'a dit, on n'a qu'une mère. Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour en avoir plus à parler.
La neige, regarde la neige qui tombe. Cimetière enchanté, fait de légères tombes. Elle tombe la neige, silencieusement. de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant. La neige, les yeux les mieux ouverts, sont encore des paupières, et Dieu, pour le prouver, fait pleuvoir sa lumière glacée, ardente cependant, cœur de braise tendu dans une main d'argent. La neige, elle vient de si haut, la chasse damoiselle, que sa forme voilée d'étoiles se constelle. Elle vient de si haut, cette sœur des sapins, cette bombe lactée que lancent les gamins. Elle vient de si haut, la liquide étincelle qu'au sommet de la terre, elle brille éternelle, brandissant son flambeau sur le pic et le roc, comme la liberté dans le port de New York. La neige, meneuse de revue aux folies Stalingrad, elle descend l'escalier des degrés centigrades, empanachée de plumes, négresse en négatif. Elle dansait un ballet angélique, explosif. Pour le soldat givré, agrippé à son arme, œuf de sang congelé dans un cristal de larmes, elle danse la neige dans la nuit de Noël, autour d'un tank brûlé qu'elle a pris pour chapelle. La neige tout de suite moissonne, tout de suite hécatombe. Oh, la neige, regarde la neige qui tombe.
On dit un texte de telle façon, de telle autre. Pas du tout, on dit comme on veut. Mais faut-il encore apprendre à imaginer être à la place de l'auteur qui l'a écrit? Et ça, c'est l'imagination profonde. Et pour apprendre cette imagination, pour la rendre sincère sur une scène, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis, depuis 100 000 nuits, une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez bien Jean de l'enfer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, oh, oh, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris, j'aimais ton rire, charmante Elvire. Les loups étaient loin de Paris.
mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmante Elvire, les loups regardent vers Paris. Et v'là qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus, le soir, affronter la neige des boulevards. Alors, de loups sont entrés dans Paris, l'un par ici, l'autre par Ivry. De loups sont entrés dans Paris, oh tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Alors, sans loup, oh, oh, sans loup sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. Sans loup sont entrés dans Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Sans loup sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Prenant. Il fit faire grâce ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmante Elvire. Les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents, Ferre, Carousse, Liesse et Bombance, dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, les loups, oh, oh, les loups sont sortis de Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups sont sortis de Paris, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris, les loups, les loups, les loups.
Je ne me suis pas poussé moi-même à chanter, c'est quelqu'un qui m'y a poussé, ou plutôt me l'a proposé, et après la question posée sans avoir réfléchi, pas même une seconde, j'ai dit oui. Bon, ce oui-là signifiait que dans le fond j'en avais envie, et je me trouvais chez Simone Signoret. Lorsque Canetti venait lui proposer, lui montrer une couverture de disque pour elle, elle avait enregistré merveilleusement La Voix Humaine de Cocteau, et il lui proposait une certaine pochette avec une certaine photographie, etc. Et il se trouvait que je me trouvais là, comme ça, par hasard, parce que souvent j'allais chez les Signoret Montand, et j'habitais à côté, puis ils sont de grands amis. Et il m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez chanter Boris Vian? J'ai dit oui, tout de suite, comme ça. Et le soir, en rentrant chez moi, j'ai pensé, mais j'ai dit oui, je ne sais pas chanter. Et pour défendre ce disque, j'ai voulu aller en scène pour le défendre, enfin pour défendre en tout cas le travail que j'avais fait, qui n'était pas très bon, ne serait-ce que pour y faire des progrès, enfin. Et je suis allé en scène, ça a été très dur pendant un certain temps, ce qu'on n'a pas su naturellement, parce que je passais ici et là en banlieue, hein, en chantant 3-4 chansons. Et puis un beau jour, j'ai rencontré Barbara, laquelle Barbara m'a proposé de chanter un jour, une soirée seulement avec elle, le 18 juin, je me souviendrai toujours, pour des étudiants à la mutualité. Et cette fois-là, au lieu de chanter 3 chansons, j'en ai chanté 10. Et c'est là où, tout d'un coup, j'ai pris ma distance. Enfin, j'ai commencé à savoir que je n'étais pas fait pour chanter trois chansons. D'ailleurs, entre nous, personne, parce que il est beaucoup plus difficile de chanter deux ou trois ou quatre chansons que d'en chanter dix. C'est beaucoup plus difficile.
Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur rappliquait en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Arthur, où t'as mis le corps quand c'était crié Zanke? Bah, je sais plus où s'est foutu le mec. Arthur réfléchit non de là. Ça a une certaine importance. Que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus. Je me rappelle plus où Dieu je l'ai mis. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse. Un quart de flic aux trousses, on a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant. Et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas. Oh là, oh là.
Arthur, où t'as mis le corps?
Murmuraient les inspecteurs. Bah, c'est vrai, où je l'ai foutu, les mecs?
Arthur réfléchit, non de l'eau. C'est une certaine importance.
Ce que c'est qu'il est mort, ça. Ah, ça, il est mort, ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, comme ça, il n'y a plus de preuves, hein? On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la brotte. On pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui, Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, Arthur, il en est mort. Il en est mort et on ne sait pas où il est passé. Ah, j'ai misère, Arturo, c'est passato. Oh, Arturo. Alors, mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis? Dites-le. Dites-le à votre bon petit directeur. Hein? Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de merde. Et le directeur Furax attrape des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, l'ancien est pas nouveau parce que nouveau, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là?
Oui, les gars.
Arthur, où t'as mis ton corps?
J'ai plus de corps, les gars.
Arthur, as-tu du cœur?
Belote, les gars. Rembolote. Les 10 de deuil.
Ben, comme ça, on a compris que ce putain d'Arthur était au paradis. Ma che sta facendo, Barrile? Vabbè qua che ne faccio vedere, Arturo. Mannaggia miseria, ma che sta facendo?
Oh. Où est passé Paris, ma rose? Paris sur Seine, la bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris, ma rose, roses. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oubli est parti sur la pointe des pieds. Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers? C'est perdu vers Aubervilliers, ouvert Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime, et qui n'est plus?
De tous les personnages qui peuplent l'univers de la Commedia dell'arte, il en est un qu'on a envie de faire jouer à Reggiani. On le reconnaîtrait à son masque. En bois ou en cuir, le masque Zanni se termine par deux trous de nez hyper réalistes, prolongés d'un gland qui suggère sans l'ombre d'un doute le côté yin de son karma. Quelque chose comme un ange tombé du ciel, les ailes définitivement sciées, sujet désormais à la pesanteur et à la gravitation terrestre. Le Zanni pourtant postule qu'il s'agit de l'ange tapis dans la bête et qu'au fond, en vérité, Reggiani n'est qu'un troll qui appartient aux deux mondes du masque et du vertige, coincé entre les petits destins et le schizo du téléfilm « Il n'y a plus de héros » au numéro que vous avez demandé. Un troll est un troll, et il n'y a que les Scandinaves pour imaginer de tels humanoïdes. Un Italien en Italie comprendra qu'un type qui s'appelle Reggiani, né à Reggio, de parents Reggiani, passe à travers les vitres en doulos, visite les mythologies de banlieue en Apache, bravissime personne à l'auréole d'Estroy, l'archéo-collabo Sénéchal, grand-père de la comte Lucien, petite graine de Touvier d'Orio Céline, ce Reggiani-là doit avoir la santé. Sortir de l'armée des ombres pour investir le carrefour des enfants perdus relève de la même tentative d'être artiste et soi-même. Il faudra choisir, il a fallu choisir. Pauvre tragédiante, va donc et chanteur à Charme-la-Grande, toujours plein d'emphase à la bouche, et quelquefois qui sonne juste, parce qu'il faut être artiste jusqu'au bout des doigts pour sculpter des joies quand la chair est triste.
Vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés. À moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. Tu feras le jour, je ferai la nuit. Je protégerai ta vitre qui tremble. Nous serons heureux, nous serons ensemble. Tu feras le jour, je ferai la nuit. Vous êtes bien belle et je suis bien laid. À vous la splendeur de rayons baignés. À moi la poussière, à moi l'araignée. Vous êtes bien belle et je suis bien laid.
l'instant où on essaye de choisir la qualité, on est forcément condamné à la responsabilité. Et c'est très difficile d'avancer, surtout lorsque, comme on dit, les choses marchent bien. Il se trouve que la chanson, en ce moment, pour moi, je dis bien en ce moment, marche. Mais cela ne vient pas du fait que j'ai essayé de faire que la chanson marche. Ça vient du fait, probablement, que j'ai essayé d'être relativement honnête avec moi-même et de trouver des choses qui me concernaient et que j'aimais. Mais tout d'un coup, le succès vous donne une responsabilité, à savoir, et aussi le danger de se dire, mon Dieu, est-ce que ça va continuer à marcher? Par conséquent, ne vais-je pas, sans le savoir et sans le vouloir, par conséquent, faire petit à petit, ici et là, des concessions, ce que je ne voudrais pas. Voilà, alors c'est une situation de danger qui, je l'avoue, m'angoisse beaucoup, me fait très peur. Très peur parce que je ne voudrais pas vis-à-vis de moi-même un beau jour me décevoir, et très peur aussi parce que je ne voudrais pas non plus décevoir, disons, les yeux des autres, enfin le regard des gens qui m'aiment bien. J'aime ce métier parce que, d'abord j'y suis pour ainsi dire né, je l'ai fait par hasard, et je me trouve encore à apprécier ce métier, ne serait-ce que parce que j'ai été jeté là-dedans par hasard. Alors pour moi, le métier que je fais reste un luxe extraordinaire. Je me sens privilégié, exceptionnellement privilégié. Mais c'est vrai que je profite de mon métier pour essayer aussi de... Essayer, toujours essayer, vous savez, on n'arrive jamais au fond des choses, je crois. Mais essayer de vivre ma vie d'homme. Et c'est, je crois, encore plus difficile que d'essayer de bien faire son métier.
J'aurais pu être un héros ou un traîne bistrot, un banquier ou un fou. Il s'en est fallu de quoi que je sois toi. Tout se passe au millimètre, et ce que l'on peut être dépend-il de nous ou d'une partie de l'auto jouée là-haut. Faut faire avec ce qu'on a. Je me contente de moi. J'aime la vie cette garce qui punit ses vainqueurs. Je la perdrai sans perdre la face, mais une écharpe au cœur. Je suis moi, mais je suis lui qui marche sous la pluie après l'adieu banal et va prendre calmement 25 allemands. Vois cette photo couleur, cette photo douleur sur le papier journal. Ces grands yeux qui crient de faim, ce sont les miens. Je suis trois fois rien d'un tout. On me trouve partout. J'aime la vie cette garce qui punit ses vainqueurs. Je la perdrai sans perdre la face, mais une écharpe au cœur. Quand je fais mes clowneries devant la galerie pour m'épater moi-même, parfois je me fais de l'œil de mon fauteuil. Je suis artiste et public, histrion et critique, au balcon et en scène, comédien pour n'être pas tout seul en moi. Plus on est fou, plus on rit. Je suis vous, plus je vis. J'aime la vie cette garce qui punit ses vainqueurs. Je la perdrai sans perdre la face.
vois pas chanteur. Peut-être continuerai-je à faire des disques, mais je me produirai beaucoup moins en scène, de façon à avoir le temps effectivement de faire du théâtre d'une part, et d'autre part aussi de faire du cinéma si j'en ai l'occasion. Et puis le temps de vivre aussi. Depuis 2 ans, je n'ai pas le temps de vivre telle en scène que j'avais promis, car je m'étais habitué à vivre dans mon midi. Eh bien, il a fallu que je remonte à Paris, que je remonte les enfants et tout le monde, puisqu'il était hors de question de les voir. Je les voyais presque plus. Alors, pour moi, ça n'était pas grave, mais c'était plus grave pour eux. Les enfants sont forcément influencés un peu par ça, parce que les camarades à l'école leur disent « Ah, dis donc, c'est... » C'est le fils à Régionie, ou c'est ton père qui queue, puis on a entendu ton père, etc. Alors, c'est très difficile de résister à ça. Mais ils y résistent très très bien. Je vais vous donner un exemple qui est une petite anecdote. L'année dernière, il y a 2 ans, Célia, qui a maintenant 11 ans, en avait 9, donc, elle avait été invitée par des amis sur une plage, près de chez nous, dans le Midi. Et il s'est trouvé que à cet endroit, il y avait la télévision tournait à propos d'enfants en vacances. Et ils ont choisi Célia. Ils ont choisi Célia pour lui poser des questions. Et voilà ce que ça a donné. Dis donc, tu nages bien, comment tu t'appelles? Célia. Célia comment? Célia. Ah bon? Et dis-moi, tu nages très bien, oui? Qui t'a appris à nager? Mon papa. Qu'est-ce qu'il fait ton père? Il est maître nageur. Où habites-tu? Paris. C'était pas vrai, elle habitait Cannes. Et où vas-tu à l'école? À Cannes. Vous voyez, tout est un tissu de mensonges, justement pour se préserver.
Ben voilà ce que c'est, de la conscience. Tout est prévu, minuté, programmé.
Ben, ce camp, il va se mettre tout droit dans la gueule du loup.
Et sans demander la permission, en cachette comme un voleur de poule, et avec un bras dans le plat encore.
Mais Pépé, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus?
Pas gagné, triomphant, les a écrasés 13 à 9. Vous auriez dû voir ça.
Et lui, toujours content, hein? Toujours le sourire aux lèvres. Comme Saint-Jean bouche d'or, il voit pas le mal. Un innocent, voilà ce que tu es. Un innocent.
Mais Pépé, tu voulais toujours attendre. J'en pouvais plus, moi, d'attendre.
Je voulais attendre parce que tu étais pas prêt, malheureux.
Bah tu vois, tu te trompais.
C'est accablant.
Accablant.
Pitoyable.
Totalement pitoyable.
Accablant, pitoyable. Mais quoi?
Je lui dis. Ben Casino, figure-toi, il aime la gloire, mais il préfère encore l'argent.
Quoi? Répète un peu, j'ai pas bien compris.
Ah ben t'as très bien compris. Il t'écrase, il te met minable dès la première partie, adieu la revanche. Tandis que là, il doit venir un bon petit, plein d'avenir, plein de promesses. Et il se dit, celui-là, il me plaît bien, faut que je me le réserve. On va lui donner une partie d'avance, ça va faire monter les enchères, et mon sponsor, M. Fabiani, il sera content de moi.
Mon petit, que j'ai levé avec tant d'amour. Allez, le vin est tiré, faut le boire, au travail.
Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on reste tous les deux. On va bien jouer ensemble, on est là tous les deux, seuls. Ce soir, elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Elle écrira demain, peut-être, nous aurons une lettre. Il pleut sur le jardin, je vais faire du feu. Je n'ai pas de chagrin, on est là tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois. Il pleut dans ma mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il fait un peu froid ce soir. Une histoire de gens qui s'aiment, une histoire de gens qui s'aiment. Tu vas voir, ne t'en va pas, ne me laisse pas. Je ne sais plus faire du feu, mon enfant, mon amour. Je ne peux plus grand-chose, mon garçon, mon amour. Comme tu lui ressembles, on est là tous les deux, perdus parmi les choses, dans cette grande chambre, seul. On va jouer à la guerre et tu t'endormiras. Ce soir il ne sera pas là, je ne sais plus, je ne sais pas. Je n'aime pas l'hiver, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien à faire qu'à jouer tous les deux, seuls. Attends, je sais des histoires, il était une fois, je n'ai plus de mémoire, je crois, ne pleure pas. Attends, je sais des histoires, mais il est un peu tard ce soir. L'histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre. Écoute-moi, elle n'est plus là. Non, ne pleure pas.
Entre l'enfant des chansons et des films qui l'interpellent et l'enfant de la réalité qui le fascine, source d'admiration et de douleur, quelle différence! De même, entre l'acteur qui incarne les victimes et les salauds et l'homme qui marche dans la vie en tentant de garder la tête haute, quel parcours! À celui qui a toujours bravé le destin avec les armes de la franchise et de la loyauté, la vie impose épreuve et surprise, et l'homme ne s'y est jamais dérobé.
Les gens qui disent « moi je ne fais pas de politique », c'est les gens qui ne s'occupent de rien ni de personne, qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. Enfin, voter, c'est quoi? C'est faire de la politique. Je n'appartiens à aucun parti, je n'ai jamais appartenu à quelque parti que ce soit. Et je n'appartiendrai jamais à quelque parti que ce soit, mais je vote. Et puis quand j'ai une chose à dire, je la dis. Si on me la demande, je la dis. Si on me la demande pas, je la dis quand même. Je veux dire que, bon, j'essaye aussi de faire mon métier d'homme, quoi.
C'est un trou de verdure au champ d'une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la lune, pâle sur son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les gaïoles, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid, les parfums ne font pas frictionner sa narine, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher,
il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes mon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Le parfum de la pluie et le phare qui luit la nuit sur la Rochelle. Près des eaux cadencées, tu te voyais danser ta vie romanichelle. Le vent était porteur d'un air de colporteur que toi seul entendais. Tu rêvais de Kelly, Donen et Minelli, et moi, je t'attendais. Noël, Noël, dans une vie, y a pas de surprise, y a que des cadeaux. Moi j'ai la pluie dans ma valise, et ton radeau. Et puis la MGM un jour t'a dit je t'aime, Hollywood t'a étreinte. Face au planning qui tue, tu as compris que tu n'aimais pas les contraintes. Alors Broadway la folle, la rue du musical, d'Aster et Doris Day s'est fondu d'un néon couleur d'accordéon. Chez moi, je t'attendais. Noël, Noël, dans une vie, y'a pas de surprise, y'a que des cadeaux. Moi j'ai la pluie dans ma valise, et ton radeau, et ton radeau. Oui, mais New York, New York est un bateau remorque où s'ennuient les sirènes. Tu es revenu voir Esmeralda le soir danser avec la Seine. C'est là qu'au Bistingo, je suis tombé dingo de toi et je t'ai plu. On avait rendez-vous juste à la seconde où je ne t'attendais plus. Noël, Noël, dans une vie, y'a pas de surprise, y'a que des cadeaux. Moi j'ai la pluie dans ma valise, et ton radeau. Comment te dire mes vertiges de t'aimer, mes peurs toujours nouvelles. Moi qui de temps en temps me sens si peu Adam, te sens tellement Noël. Comment te dire qu'il fera beau sur mon île le jour où j'étendrai mes regrets et ma peau. Noël, il fera beau puisque je t'attendrai. Noël, Noël, dans une vie, y'a pas de surprise, y'a que des cadeaux. Moi j'ai la pluie dans ma valise et ton radeau, et ton radeau.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme c'est au courant, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et puis, et j'allais dire déjà, l'enfance se fait lointaine, comme un pays d'où l'on s'en va. Je ne vois plus qu'à peine le rivage, mon amour, mon amour. Avec toi, j'appareille là, pour autre part, pour autre chose, à bord de ma cinquantaine, et je t'emmène là-bas, dans une image. Je t'aime, toi, qui ne seras jamais une grande personne. Ne me quitte jamais, je t'aime. Et puis, comme on va en province, quand on aura fait la vue, nous irons à la soixantaine, dans la maison que j'aime, en Provence, mon amour, mon amour. Nous aurons fait l'amour et puis d'autres garçons bien avant les vieux jours et les vieilles nuits. Si tu es sage, tu auras des images. Je t'aime, toi, qui ne seras jamais une grande personne. Ne me quitte jamais, jamais. Et puis, mais ça n'est pas demain. Il faudra que le soir vienne. Je m'en irai sur le chemin où nous attend la chienne. Un par un, mon amour, mon amour. Quand je serai dans les nuages, c'est autre part, c'est autre chose. Encore, mais sans toi, tu sais, je serai seul là-bas, dans l'autre image. Je t'aime, moi, qui ne serai jamais une grande personne. Ne me quitte jamais, je t'aime.
Le succès, c'est une chose étrange. C'est comme le fil du rasoir. C'est très très fin comme ça. Vous basculez d'un côté, c'est le four, c'est la catastrophe. Un tout petit peu de l'autre côté, c'est le triomphe. Il n'y a rien de plus injuste que le succès. Et quelquefois aussi plus injuste que l'insuccès.
J'ai envie de perdre. Tu comprends ça, toi?
Je comprends, mon petit.
Ça arrive. On veut tellement quelque chose, on y a tellement pensé. Tout d'un coup, quand ça va réussir, ça paraît tout comme. Alors on oublie de se battre, on baisse les bras. Le train passe et on reste sur le quai.
Mais où est-ce qu'on va trouver l'argent?
Oh, t'inquiète pas. Pendant que toi tu perdais, moi je gagnais. Chez le notaire.
Galopian, le notaire, c'était un copain de ton père. Il a fait un prix d'amis. Le café hypothéqué pour 700 000 francs.
Non, non, tu vas pas risquer tout ce qui t'appartient. Et si je perds comme aujourd'hui?
D'abord, tout ce qui est à moi est à toi. Alors, un peu plus tôt, un peu plus tard, que ça change. Oui. Aujourd'hui, tu devais perdre. C'était écrit comme ça, hein?
Moi qui ai vécu sans scrupule, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscules, je devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu, je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Dites-moi que le bon Dieu existe, qu'il a une barre et des mains, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes, dites-moi que les poules ont des dents, que je jouerai du violoncelle là-haut dans mon costume blanc. Vivre, vivre, même sans maison, même sans souliers. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. J'avais le blasphème facile, et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Qu'il m'excuse si je suis lâche, je veux bien rire autant qu'on veut, mais quand on se trouve à ma place, on prend quand même un coup de vieux. Vivre, vivre, même bancal, même à moitié. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Je vois de la lumière noire, c'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Non, je n'ai vraiment plus la force de faire un dernier jeu de mots. Je sors par la petite porte, j'ai le trouillomètre à zéro. Vivre, vivre, quand faut y aller, il faut y aller. Vivre, vivre, Monsieur Saint-Pierre, la charité. Vivre, vivre, en plein soleil, en plein été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Vivre, 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 vivre.
C'était Opus, Serge Reggiani, par François-Régis Barbry, réalisation Marie-Noël Barbarin, première diffusion sur France Culture le 22 septembre 1990. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.